Et aujourd'hui, nous sommes à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.
Antoine Lee, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle étape de Rendez-vous Place du Marché. Hier, vous étiez à Lacoste, dans le Vaucluse, avec Coralie Fez. Aujourd'hui, changement de décor, nous sommes à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, plus précisément à la Cité des 3000. On y compte près de 20 nationalités. Ici, pas de grandes barres d'immeubles comme on l'imagine, mais plutôt des bâtiments de 5 ou 6 étages. Les 3000 ont fait la une de l'actualité en 2017 avec l'affaire Théo, ce jeune violemment interpellé par 4 policiers lors d'un banal contrôle d'identité. Le président Hollande était venu à son chevet pour le soutenir, mais surtout pour éteindre l'incendie qui embrasait le quartier et les environs. Ici, aux 3000, il y a un dicton qui revient souvent aux oreilles. Voilà ce que ça dit. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. C'est une jolie façon de dire qu'on parle plus des problèmes de drogue et de délinquance que des belles initiatives. À mes côtés, un enfant des 3000, un enfant qui mesure quand même 1m93 pour plus de 100 kilos, le comédien Steve Tiencheu, qui a crevé l'écran dans Les Misérables, le film coup de poing de Ladj Ly. Bonjour Steve.
Salut Antoine.
En forme ce matin?
Ça va, tranquille.
Pourquoi on dit les 3000 d'ailleurs?
Parce qu'il y a 3000 logements, exactement. Cette cité, elle a été construite, je crois, en début années 60, en 65. On a construit les 3000 logements par rapport à l'usine Citroën qui était placée derrière, maintenant qui n'est plus là, qui est fermée. Et on a mis les logements, 3000 logements, ici dans le secteur, en fait.
Et en fait, on dit même plus 3000 ici, on dit les 3 queues. Pourquoi ?
On dit les 3 queues parce qu'on voulait se démarquer par rapport à... Parce que Aulnay-sous-Bois, c'est les 3000, la Courneuve, c'est les 4000. Donc nous, on a voulu se démarquer, donc on a dit les 3 queues. Après, les 4000 ont repris le truc et maintenant, ils disent les 4 queues aussi.
Parce qu'un queue, c'est 1000.
Ouais.
3000, 3 queues, c'est logique. Bah justement, je vous propose d'avancer un petit peu au cœur de ce marché du nord d'Aulnay. Il paraît que c'est l'un des marchés les moins chers de France. C'est vrai ça, Steve ?
Ouais, c'est l'un des marchés les moins chers de France.
Bah là, on voit par exemple 2 melons pour 1 euro. Et là, il y a des mangues, 2 mangues pour 1 euro. Enfin voilà, moi, j'ai jamais vu ça. Avec vous, Steve, on parlera de cinéma et de votre parcours atypique. On s'intéressera surtout à un projet qui vous tient à cœur, une école de cinéma à ciel ouvert, ici, aux 3000. On accueillera aussi un voisin, il vient de Bondy, la ville qui a vu naître Kylian Mbappé. Et l'homme qu'on va recevoir, bah, il apporte beaucoup de paix sociale dans les quartiers nord de Bondy. C'est le père Patrice Gaudin. Et on s'intéressera aussi à des gens qu'on a tendance à oublier. Ce sont les aidants. Ces personnes se dévouent totalement pour s'occuper d'un proche malade qui a perdu toute autonomie et c'est souvent une responsabilité très lourde et une structure à Aulnay a décidé de leur venir en aide. On terminera en musique avec Youssef Kahali, cet artiste est aussi le directeur du CAP, un endroit que vous connaissez bien Steve, c'est un endroit très important 3000, c'est le centre culturel du quartier. Steve Tiencheu, vous écoutez quoi comme musique vous ?
De la soul, du rap, de la variété française des années 60, de la pop, pas du métal. Ouais, et puis voilà quoi, tout ça, ouais.
Eh bien, je vous propose de découvrir un titre qui va vous plaire, c'est Georgia Smith. On écoute son titre « Bush Down », elle est accompagnée de la rappeuse Shaybo, un titre envoûtant choisi par Chewbacca. Top down cause she worked hard for it, but blacked out so they won't see her in it. Bust down baby, ain't tired of this. Diamonds baby bought all of them. Dressed up and she just wore smiling. Bust down baby, ain't tired of this. Run it, run it now. You wanna head out, the flight leaves at noon. Wanna buy Chanel, they just dropped them 2 bags. They want another, now you're asking for too much. Order what you like, don't have to pay about the parties at midnight. She wants to answer that, feels so bad to feel nice. But she can't handle that, it comes with a small price. Yeah, I give, you take. Been keeping track like I'm a train. Even with drip, I'm feeling drained. It's getting long hair like braids. 2 sides, either really rude or too nice. So before it goes left, you better move right. Top down, cause she worked hard
out for it. But blacked out so they won't see you in it. Bust down, baby, ain't tired of this. Diamonds, baby, bought all of them. Dressed up and she just was fine. Bust down, baby, ain't tired of this.
I give again. Show me the play if it's a game. If there's no point, then what's the aim? It's like you're eating off my name. Again, the price of fame is really costing me. Spend again, nothing in this life comes for free. They say the talk is cheap, furthermore it's free. If I go broke today, will you stay or leave? I felt so hard, so deep, wore my heart upon my sleeve. Every word you say, I just believe, so call me Miss Naive.
Top down, cause she worked hard for it. But blacked out, so they won't see her in it. Bust down, baby, ain't tired of this. Diamonds, baby, bought all of them. Dressed up, and she just was fine. Bust down, baby.
Down, baby. Come round, come round, come round, come round, save me. Been round, been round, been up and down lately. Been up and down lately.
They call me Miss Naive, Miss Naive. So trusting of everybody and anybody. Not if you're a bitch like me, cause of the bitch I be. I told you to be careful of me, be careful, honey.
They call me Miss Naive, I'm so naive. I put trust in all the ones that got me. They never really had me see. If you cough up with me, be real with me. You got to be careful loving me, careful, honey.
Hey, check my turn to it. What you see? You don't know what's that's a beast there. Me no heat from nobody. Me no heat from no, me never heat from nobody. I never heat from anybody.
Vous êtes sur France Inter, c'est Rendez-vous Place du Marché à Aulnay-sous-Bois, à la Cité des 3000. On est en compagnie du comédien Steve Tiencheux, qui a grandi ici. On a fait quelques mètres ensemble pour se poser en face du marché, à la terrasse du café Le Grand Paris. À côté de vous, Steve, votre complice, le scénariste Tariq Lakhdiri. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez tous les deux le projet de former des habitants du quartier au cinéma. Et on accueille aussi Youssef Kahali. Bonjour, Youssef.
Bonjour.
Youssef, tout le monde ici vous appelle Youss, hein. C'est bien ça, faut...
Oui, ouais, c'est ça, même moi je m'appelle Youss.
Vous êtes chanteur et surtout vous êtes le directeur du centre culturel du quartier, le Cap, un endroit très important en 3000, vous nous en parlerez. Alors, à côté de nous, il y a Ryan, le fils du patron du café Le Grand Paris. On peut vous commander un peu de thé à la menthe?
Oui, pas de souci.
On va en commander, déjà, on va en commander 4.
D'accord.
Merci. Steve Tiencheux, on vous a donc vu dans Les Misérables de Ladjli, également dans le film d'Abdel Raouf d'Afri, 1500 impurs. Et là, vous venez de finir un film avec Benoît Poulvorde. Comment vous est venue la passion du cinéma?
C'est depuis que je suis petit. Avec mon père, je regardais pas mal de films.
Vous regardez quoi?
Les films de Gabin, certains films de Jean Yann, les grands films américains comme les Steve McQueen, Bullitt, du Elia Kazan aussi. Et après, je pense qu'en 2007, plutôt à mes 25 ans, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, c'est le moment de m'inscrire dans une école de théâtre. Et après, je suis parti, j'ai foncé.
Et donc, vous êtes présenté, c'était les cours Simon. Vous êtes présenté dans quel état d'esprit?
Dans un état d'esprit où c'était nouveau pour moi. J'avais un peu peur parce que c'était quelque chose de nouveau et je sortais de ma zone de confort. Voilà quoi. Donc, et moi, le mot école, comme je me suis arrêté très très tôt... dans mes études, donc encore le mot école de théâtre, c'était vraiment un challenge pour moi. En fait, non, il y avait une seule chose qui me sauvait, c'est que j'avais envie et ça m'a beaucoup aidé.
Il y a Ryan qui est revenu avec le thé. Merci beaucoup. Savez-vous, Tariq, Youss, Steve, vous vous souvenez de ce qu'on vous avait demandé de jouer?
Ouais, je me souviens. Ma première scène, je crois que c'était Le Bourgeois Gentilhomme, je crois, de Molière, ouais.
Et ça s'est passé comment alors? Vous aviez le trac ou pas?
Ouais, on a toujours le trac quand on monte sur scène. Mais avec mon accent de banlieusard et jouer des vers, donc c'était un peu marrant, quoi. Mais
À l'issue de cette prestation, le prof, il vous a dit quoi?
Quand je suis monté sur scène, le prof, il m'a dit, je m'en rappellerai toute ma vie, c'est vrai. Toi, je te garde parce que ça se voit que t'es quelqu'un de bien et gentil. Et je veux tout apprendre avec toi, tu ne vas pas quitter cette école. Tu restes avec nous ici.
Ça vous a fait quoi, ça? Parce que vous parliez de votre peur de l'école.
Mais franchement, quand j'étais dans le train, dans le RER, quand je rentrais, ça m'a touché, parce que c'est la première fois qu'un prof il m'a dit ça. Et même quand je suis rentré chez moi, je me rappelle, j'ai dit à ma mère, ça y est, c'est ça. Elle m'a dit quoi? J'ai dit, c'est dans cette voie que je dois y aller. C'était ça, en fait. C'est ça, ma voie. Non, je le remercie, ce prof, parce qu'il m'a fait kiffer un métier, il m'a fait aimer ce métier. Et si j'en suis là, franchement, c'est grâce à lui aussi.
On va donner son nom.
Cyril Jarousseau.
Mais quand vous dites ça vous a touché, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez ressenti?
J'ai ressenti qu'on pouvait me faire confiance. C'est surtout ça, que je pouvais avoir la confiance d'un prof, parce que comme moi, j'ai pas eu une bonne entente avec mes profs à l'école, et c'est de ma faute, comme il y a un peu de leur faute aussi, c'est 50-50. Mais qu'un prof te dit, ouais, toi, je te garde, je veux tout apprendre, parce que t'es gentil, t'es cool, et en plus, tu m'as posé la question sur mon gabarit, donc c'est des hantises qui reviennent à chaque fois. Comme on est dans un pays en France, on te juge à ta couleur, on te juge à ton gabarit, mais on te juge pas à ce que tu sais faire. Et je pense que c'est pour ça qu'ici, c'est un pays qui marche en ralenti, t'as vu? Parce qu'on va te juger à ta barbe, on va te juger à tout ça, mais qu'est-ce que tu sais faire? C'est ça qu'on doit mettre en avant en premier.
En tout cas, aujourd'hui, vous voulez transmettre votre savoir aux habitants des 3000. Pour ça, vous êtes associé à Tariq Lakhdiri, vous êtes scénariste et réalisateur. Ensemble, vous lancez cinéma à ciel ouvert. Il s'agit de quoi au juste, Tariq?
En fait, il s'agit de lancer une pépinière. L'idée, c'est de partager en fait avec les habitants, comment dire, le parcours de Steve, ce qu'il a appris, ce que moi aussi j'ai pu apprendre à travers mon parcours et à travers les expériences auxquelles j'ai participé. Cinéma à ciel ouvert, c'est parce que je reprends encore les paroles de Steve. C'est en fait le mot école, ça nous plaît pas parce que on insiste sur le côté mur, sur le côté en fait cadre, sur le côté répétitif de l'école. C'est-à-dire que chaque année on apprend la même chose à différentes générations ou à différentes personnes. Nous, ça va se passer autrement, c'est qu'en fait on va se centrer à chaque fois sur un projet artistique. Et Steve un jour m'a dit ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre dans la rue, je vais parler avec eux, je vais leur expliquer ce qu'il en est en marchant.
Mais vous partirez d'un projet concret au départ?
Mais c'est un scénario qui est écrit en fait, et sur ce scénario, là sur la première session, il y a 14 rôles à peu près. Donc on va caster ces 14 rôles, et après ils rentreront dans la formation. Dans cette formation, ils auront des cours de danse et de la préparation physique. Parce que le cinéma, quand on refait 14 fois la même prise, faut être présent, faut être attentif, faut être concentré.
Mais ici au 3000, on pense pas d'abord à être acteur. C'est pas quelque chose d'évident. Ici, on rêve plutôt d'être rappeur ou footballeur, comme Moussa Sissoko, qui a grandi ici, qui a joué en équipe de France. Vous, justement, voulez proposer autre chose.
Dans le quartier, il y a une sorte de mimétisme, de déterminisme. En fait, dans les boulots, souvent, les gens en fait ont le réflexe de copier des choses qui ont déjà été faites sur le quartier. Moi, par exemple, j'ai grandi avec une génération où 90% de mes amis travaillent sur Roissy. En tant que bagagiste, un peu moins maintenant parce que c'est la pandémie qui a un peu moins de travail. La planque, en fait, c'est-à-dire le meilleur boulot qu'ils pouvaient trouver, c'était à la mairie. Voilà, parce qu'en fait, la mairie, ça offrait des avantages. En même temps, ils avaient le statut de fonctionnaire, etc. Et on s'est dit qu'en fait, c'est parce que dans leur horizon, ils n'ont pas la culture qui est positionnée. C'est-à-dire ils n'ont pas des exemples concrets au quotidien qui leur permettent à eux de suivre en fait ce parcours. C'est-à-dire marcher sur les pas ou sur les traces de quelqu'un. Et en fait, c'était de mettre en place les parcours pour qu'ils aient au moins le choix de aller dans cette voie-là ou pas, mais que ça soit un choix et pas une absence de connaissances ou une absence d'horizon.
Yous, de votre poste d'observation comme directeur du centre culturel du quartier, vous avez fait quel constat ?
Si je peux me permettre, c'est plus un constat personnel, parce qu'au-delà de ma position de directeur du Nouveau Cap, je suis moi aussi issu de ces quartiers. Et effectivement, l'enfermement psychologique dans lequel on s'est tous plongés depuis maintenant 4 ou 5 générations, parce que ça commence à passer, notre prison dorée, on se l'est construite nous-mêmes, à mon avis par un manque de confiance en nous, lié aussi à l'arrivée de nos parents dans des conditions super difficiles. On a grandi fragile, comme je dis tout le temps. Mais je pense qu'il faut positiver et se dire aussi que on a notre part de responsabilité, et elle est énorme. Notre part de responsabilité, c'est qu'on s'est auto-censuré, qu'on s'est interdit le rêve, en fait. Et moi, des projets comme ceux de Steve et Tariq, c'est des projets que j'applaudis des deux mains, parce que voilà, c'est la porte qui s'ouvre enfin, ou qui s'entr'ouvre. Voilà, on a le droit de rêver.
Vous, Steve Tiencheu, vous étiez dans cette prison ou pas, mentale?
Ouais, je veux dire, quand on est jeune. Mais à un moment, comme j'ai dit, il y a le déclic. On n'est plus au temps où on doit se plaindre. Maintenant, c'est à nous de créer. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer? On n'est plus c'est peut-être dur ce que je veux dire, mais nous, on n'est pas comme nos parents. Nos parents, ils sont arrivés avec ces sacs remplis de kilos sur leur dos. Ils ont vécu tout ça. Ils ont vu l'arrivée des colons en Afrique. Ils ont tout vu. Donc, ils avaient cette peur. Nous, maintenant, on est nés ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour passer au-dessus de tout ça? C'est à nous de créer maintenant. On ne peut plus avoir une posture de victime.
Et vous, Tariq, vous l'avez pris, le choix. Vous avez fait de grandes études dans de grandes écoles.
Oui, en fait, c'était surtout parce que dès le départ, mes parents ont eu cette ferme intention de nous offrir quelque chose que nous n'ont pas eu, c'est l'accès à l'éducation. Via des écoles privées, via l'achat de plein de bouquins, de bibliothèques de bouquins, etc. Mais je souhaitais avant tout revenir sur un point qu'on vient d'évoquer avec Steve et Youssef, c'est l'enfermement mental, le déterminisme. C'est dans le sens où nous, on arrivait à une conclusion avec Steve en écrivant le court-métrage, c'est qu'on arrivait tellement loin que la personne, même si on lui offre le choix, elle s'est tellement construite son identité dans la prison que si on lui offre la liberté, elle a peur de la liberté plus que de la prison.
Le mythe de la caverne de Platon, c'est exactement ça. Moi, je vous prive de lumière depuis votre naissance en vous disant la vie, c'est ça. Et le jour où je te montre la lumière, mais frangin, tu veux pas y aller parce que ça fait peur. Tu l'as jamais vu et tu te dis, oh là là, c'est pas pour moi, ça.
Et en tout cas, moi, j'ai rencontré une femme incroyable. Elle s'appelle Inde Ayadi. Elle habite pas très loin, à Garges-lès-Gonesse. Elle fait de la sensibilisation à l'écologie. Dans son quartier, cette mère de famille propose régulièrement aux jeunes de venir ramasser les déchets qui salissent leur cité. Ce jour-là, 10 ados ont répondu à l'appel. Un sac poubelle dans une main, une pince de ramassage dans l'autre.
France Inter. Rendez-vous, place du marché.
On va vers là-bas, et ça serait bien de se mettre à deux. Genre, il y en a un qui tient le sac, et l'autre la pince. Allez, c'est parti.
Là, tu vas prendre des gants, et tu vas chercher un sac poubelle, t'as capté? Et tu vas venir ramasser avec nous.
Est-ce qu'on est payé?
Est-ce qu'on est payé pour faire ça à son âge? Il parle d'argent. Non, toi, t'es chaud, toi. Tu sais pas c'est quoi de ramasser pour le bien de tous? C'est pour toi plus tard, hein?
Demain, il y aura le même bordel.
Il y aura le même bordel? Ben, si tu ramasses, tu donnes l'exemple, il y aura plus ce bordel-là. Parce que toi-même, ils vont devoir ramasser, les voisins vont se dire non, on peut plus jeter. C'est le petit qui parle d'argent à 11 ans qui ramasse.
Voilà.
On fait ça ou pas?
Ok, vas-y.
Allez, donnez-lui des gants.
Inde Ayadi, là, c'est des jeunes vraiment, ils sont à peine majeurs.
Ouais.
Comment vous avez fait pour les convaincre de rejoindre ce défi pour nettoyer leur ville, leur quartier?
Justement, on leur a dit que c'était pour le bien de leurs parents, pour le bien aussi de la planète, parce que c'est important aussi de prendre soin de son quartier, parce qu'on y vit, de toute manière. Donc, attendre des autres à chaque fois, se dire, non, c'est les éboueurs, c'est les agents nettoyage qui vont le faire. Moi, certes, ils sont payés pour et tout ça, mais à un moment donné, on peut tous, à notre échelle, apporter pour la planète et pour son cadre de vie, c'est important. Quand on rentre dans un immeuble et que ça pue la pisse et qu'il y a des déchets, je veux dire que c'est nous qui y vivons, quoi. L'amélioration, elle est pour nous, en fait, tout simplement.
T'as fait une grosse découverte, toi?
Une grosse capture. C'est un caddie sans roue.
Un caddie en plastique?
Ouais. Et le plastique, ça pollue. Ça fait plusieurs jours que je passe par là, il était là. Je ne l'ai jamais ramassé, mais là, c'est l'occasion.
Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, aujourd'hui?
Je fais pas grand-chose de plus intéressant, donc autant faire quelque chose de bien pour la planète.
Qu'est-ce que tu fais, toi, d'habitude, à cette heure-ci?
Rien, je suis dehors avec mes potes, tout ça. On sait faire des bêtises comme on sait aussi faire des bonnes actions. Et aujourd'hui, on fait des bonnes actions.
Nous, l'écologie, elle nous est imposée. Donc, on n'a pas les moyens. Donc, la maman va donner des fringues au petit frère. Le bout de t-shirt qui est fatigué, va le déchirer pour en faire une serpillière. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Donc, c'est une écologie, on va dire, imposée. C'est vrai qu'il y a un manque de sensibilisation aussi important dans les quartiers. Ça, c'est la vérité. Après, c'est vrai que quand on a des difficultés, quand on est dans une misère sociale, c'est vrai que c'est le cas de notre souci. Y a plein de mamans, en plus, mères isolées dans les quartiers. Donc je pense que la maman, elle se prend la tête pour se dire comment je vais nourrir mon enfant, le vêtir, que la petite bouteille, il faut la recycler et tout ça. Ça, c'est une réalité aussi.
Mais est-ce que c'est une fatalité?
Absolument pas, autrement, on serait pas là aujourd'hui.
My eyes this morning.
Vous écoutez France Inter, on a rendez-vous place du marché à Aulnay-sous-Bois, à la Cité des 3000. On est toujours à la terrasse du café Le Grand Paris, en train de siroter notre petit thé à la menthe. À mes côtés, le comédien Steve Tiencheux, le réalisateur Tariq Lakhdiri, sans oublier Youss, chanteur et directeur du centre culturel du quartier. On vient d'écouter Bob Marley avec So Much Trouble in the World, en français Trop de désordre dans le monde. Et les invités qui nous ont rejoints ont décidé, comme vous quelque part, d'ajouter un peu de sérénité dans le monde. Bonjour Patrice Godin.
Bonjour.
Vous êtes venu en voisin, vous êtes le curé de la paroisse du Christ ressuscité dans le quartier nord de Bondy. Vous êtes venu en vélo, je crois, aujourd'hui, hein ?
Je suis toujours en vélo, oui.
On parlera avec vous dans quelques instants de l'impact du Covid dans les quartiers populaires. Pauline Tessé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, vous êtes aussi la responsable de la plateforme Les Voix des Aidants à Aulnay. Vous essayez de soulager ces personnes qui se dévouent pour s'occuper d'un proche malade et qui a perdu toute son autonomie. Ça peut être un parent, une épouse, un mari. Comment vous faites pour les aider ?
Alors donc nous, en effet, on accompagne les aidants familiaux qui ont un proche à domicile avec une maladie d'Alzheimer ou apparentée, ou un proche de plus de 60 ans perd d'autonomie. Notre rôle, donc nous on est avant tout financé par l'ARS, hein, l'Agence Régionale de Santé, donc c'est de leur apporter déjà une écoute qu'ils n'ont pas souvent par leur entourage ou par les autres professionnels en tant qu'aidants. Donc pouvoir aussi leur apporter des conseils, des orientations sur ce qu'ils peuvent mettre en place à domicile, que ce soit en aide financière, en aide humaine avec tout ce qui va être de l'aide à domicile, des accueils de jour. Et après, au sein de la plateforme de répit, on leur propose du soutien psychologique et différents ateliers de bien-être.
Parce qu'on n'imagine pas la pression que subissent ces personnes. Hein.
Tout à fait. C'est, voilà, être aidant, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Être toujours sur le qui-vive, devoir répéter 36 fois la même chose en 10 minutes à son proche, c'est une réelle charge mentale et il y a vraiment un épuisement physique et psychologique. Ouais.
Au point que il y a un chiffre incroyable, c'est que près de la moitié de ces aidants peuvent avoir des conséquences extrêmement graves sur leur santé, et il y en a même qui décèdent.
Oui, voilà, être aidant, comme je disais, c'est vraiment une charge mentale, et donc justement ils s'oublient en fait en accompagnant leurs proches, ils mettent vraiment de côté leur santé. J'ai plein d'aidants comme ça que je rencontre où ils disent mais j'en fais quoi de mon proche ? Je dois aller prendre un rendez-vous chez le médecin, chez le cardiologue, des choses comme ça, mais j'en fais quoi ? Donc souvent ils mettent leur santé de côté, et justement il y a un réel impact sur leur sommeil, sur leur alimentation. Il y a de l'anxiété, de la dépression, des risques cardiovasculaires. Et en plus, les aidants doivent souvent faire face à des problèmes de santé type diabète, tension, cancer, en plus d'être aidant.
Plus aussi des problèmes psychologiques.
Tout à fait, oui. Voilà, être dans les aidants familiaux, certes, il y en a beaucoup qui sont à la retraite, puisque c'est des conjoints, mais il y a aussi beaucoup d'enfants, donc ils sont encore en activité. Et il y a souvent, voilà, justement, des aidants qui sont en arrêt maladie parce que burn-out et besoin de prendre des médicaments parce qu'ils n'arrivent plus à supporter d'être aidant et de travailler en même temps. Ouais. Donc il y a le congé aidant qui est rémunéré maintenant depuis le 1er octobre, ça, il faut le noter.
En quoi ça consiste ?
Concrètement, en fait, donc le congé aidant, il existait déjà, mais là, depuis le 1er octobre, en fait, ils ont droit jusqu'à 3 mois dans la carrière, renouvelable jusqu'à 1 an au total, où en fait, ils vont percevoir une aide financière, une aide journalière par la CAF.
Tariq Lakhdiri, vous connaissez bien le sujet, car votre père a 87 ans, il est atteint de la maladie d'Alzheimer, votre mère a 84 ans, c'est vous qui vous en occupez le plus ?
Oui, la plupart du temps c'est moi, parce que j'habite avec eux, et par exemple dans le projet dont on vient de parler avec Steve, j'ai l'impression de toujours devoir m'excuser, en fait, de dire que j'ai un père qui m'attend, qui est alité, en fait, qui a du mal, je dois m'occuper de mes parents. Et à chaque fois, ça me gêne, en fait, de devoir, en fait, m'excuser, alors que on a des rendez-vous importants, des choses doivent être calées. Je leur demande à chaque fois de me prévenir 2-3 semaines à l'avance pour trouver quelqu'un qui puisse s'occuper de mes parents le jour des rendez-vous.
Pauline Tessé, justement, ce sentiment de culpabilité joue un point énorme. Et c'est là où votre rôle d'écoute intervient et tient une place cruciale.
Comme disait Tariq, il y a vraiment cette culpabilité, cette honte, parce qu'ils sont incompris de l'entourage et même de la société. Même si maladie d'Alzheimer et autres, on entend beaucoup parler maintenant dans les médias, c'est une maladie qui ne se voit pas. Et on a un peu de mal à comprendre, voilà, quand une personne va venir nous toucher dans la rue, va se déshabiller. Et pour les aidants, c'est réellement difficile. Il y a cette culpabilité, cette honte, et aussi d'accepter l'aide professionnelle à domicile. Ça, c'est compliqué.
Et comment vous faites pour les déculpabiliser ? Vous leur dites quoi ?
Alors, on leur apprend à être égoïstes, justement, parce que justement, ça, généralement, ils ne savent pas faire, ou voilà, ils ont oublié, parce que voilà, être humain, certes, c'est donner, mais c'est aussi recevoir, il y a besoin vraiment de ce juste milieu.
C'est plus penser à soi qu'être égoïste.
Oui, voilà, je dis ce terme égoïste aux aidants, mais parce que c'est un mot qui est fort pour vraiment les interpeller, mais en tout cas, voilà, pour qu'ils puissent penser à eux, prendre ce répit, puisque... Certes, l'accompagnement qu'ils donnent à leurs proches, à un moment donné, il faut qu'il soit un accompagnement de qualité et non de quantité, puisque si l'aidant est épuisé, la plupart du temps, bah, l'aidé, il va voilà, rentrer en EHPAD. Donc nous, on est vraiment là pour leur dire voilà, que tout ce qui se dit à la plateforme reste à la plateforme, même des choses qui sont parfois inavouables.
Parce qu'on peut exprimer beaucoup de colère. Vous entendez des choses très dures, par exemple.
Des fois, des aidants qui ont pu exprimer « j'en ai marre, j'ai envie de le tuer ». Il n'y a pas de problème, ils peuvent l'exprimer justement, voilà, toute cette colère, cette tristesse, cette culpabilité, cette honte, ils peuvent le dire parce que justement, voilà, les aidants, c'est des victimes collatérales de la maladie parce que certes, le proche aidé est malade, mais en attendant, c'est l'aidant qui subit aussi et nous, on est vraiment là pour prévenir la maltraitance de la personne malade, mais aussi éviter la maltraitance de l'aidant puisqu'il est maltraité par la maladie.
Tariq, vous êtes arrivé d'avoir de la colère ?
C'est qu'en fait, moi, j'ai une sœur qui est infirmière, donc qui m'aide à m'occuper de mes parents et qui, en fait, s'occupe de tout le côté médical. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, chaque partie, c'est-à-dire moi ou ma sœur, a l'impression que l'autre est plus égoïste que soi. Et donc, des fois, on se remet la faute, il y a des tensions, il y a des moments où on ne se parle même plus avec ma sœur. Et en fait, ça, je peux en témoigner parce que je le ressens au quotidien. Cette tension qu'il y a entre moi et ma sœur, parce que la charge est tellement lourde qu'on a l'impression chacun de porter plus que l'autre.
Vous, Pauline Tessé, vous proposez aussi des ateliers plus positifs, plus légers. On va appeler ça des ateliers de rigolothérapie. En quoi ça consiste au juste ?
Alors, l'atelier, donc, enthousiasmez-vous, jouez avec vos émotions, qui est animé par Sophie Gormezano, qui est comédienne, chanteuse, rigologue, art-thérapeute, donc, qui anime justement cet atelier, là, depuis plusieurs mois à la plateforme, une fois par mois, auprès des aidants. Donc, c'est un atelier, voilà, qui mêle du rire, des échauffements psychocorporels, du chant, de la danse, on ose tout. Voilà, il y a plein d'exercices qui sont proposés par Sophie et c'est vraiment du lâcher prise.
Tariq Lakhdiri, vous avez rendu un très bel hommage à votre père dans une chronique publiée dans Le Parisien. Vous avez tenu pour ce quotidien un journal de bord durant le confinement qui a été très remarqué. Père Patrice Gaudin, vous étiez aux premières loges pour constater les dégâts causés par le Covid dans les quartiers. Vous, qu'est-ce que vous avez pu voir justement ? Qu'est-ce que vous avez vécu ?
Alors d'abord, notamment dans le premier confinement, je me suis confiné dans mon église pour ne pas quitter le quartier et donner ce témoignage aux habitants du quartier. Je reste avec vous parce que la paroisse est un peu est carrément au centre du quartier. Elle fait
quartier beaucoup. Nord de Bondy, hein.
C'est ça, oui, exactement. Et bon ben voilà, je suis un peu connu dans le quartier, que ce soit pour les chrétiens et les non-chrétiens, ça on s'en fout. Et donc je me suis dit, dès que le confinement est annoncé, j'aménage mon bureau et je reste dans mon bureau. Là, j'ai laissé l'église ouverte et tous les jours, je me promenais dans le quartier pour parler aux gens des balcons. Alors évidemment, les jeunes ont été beaucoup là pas en télétravail, m'ont suivi pas mal de choses sur les écrans. En fait, on fait pas grand chose. Ce sont complètement laissé bouffer par les écrans et je vois une espèce d'addiction aujourd'hui qui est juste effroyable où ils sont assis. Donc c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup d'avocats et de médecins parce qu'en fait ils sont assis les types. En ce moment je suis en train de leur mettre des coups de pied aux fesses de façon carabinée parce que on a toutes les peines du monde à faire apprendre un truc par cœur, ça se couche à plus d'heures, le rythme de vie était déjà un peu fragile mais là il n'en reste plus grand chose.
Vous arrivez à les convaincre ?
Ben j'essaye en tout cas. Alors c'est en tout cas mon discours est simple. J'ai dit t'as deux solutions dans la vie. Alors c'est surtout pour les garçons parce que les filles se bougent un petit peu plus. En gros c'est tu sais ce que c'est qu'un poulpe ? Mais ouais t'as deux solutions. Soit t'es un poulpe, c'est-à-dire donc on va te lâcher, tu vas te répandre par terre. Soit t'es un homme, tu te mets debout et t'avances. Donc qu'est-ce que tu veux ? Ben tu veux être un poulpe ou une serpillière ? J'utilise parfois l'expression de la serpillière. Non je vais être un homme. Ok. Allons on va se donner des règles de vie parce que sinon tu vas pas t'en sortir.
Mais quand on ne connaît pas les quartiers, on se dit bah, on ne peut pas s'adresser comme ça à un jeune, enfin, on va se faire casser la figure. Vous y allez cash, vous ?
Oui, j'y vais cash. Alors, parce que alors si c'est la chance de l'homme religieux. Les jeunes, tout le monde parle de Dieu, donc il y a une confiance. Il y a déjà une confiance. Puis les jeunes me connaissent bien parce que ça fait 6 ans que je suis dans le quartier.
Il paraît que vous avez un surnom d'ailleurs.
Alors j'ai un blaze, ouais. Alors,
vous avez un vocabulaire qu'on comprend bien dans les quartiers.
Alors mon blaze, donc
c'est tout le surnom.
Alors c'est Pépé. En fait, tout le monde m'appelle Père Patrice. Et donc un jour, un jeune m'a dit, ouais, mais en fait, on va t'appeler Pépé. Alors donc j'ai souvent, quand ça passe en moto, ça s'arrête en moto. Wesh Pépé, donc ça s'arrête, c'est formidable.
Et vous répondez quoi?
Sois le bienvenu. Voilà, je rigole avec eux. Voilà, en fait, il y a ce climat de confiance qui est créé. Et donc moi je peux me permettre en fait des paroles, même avec les gars, je sais qu'ils sont un peu limites sur plein de choses. Donc de temps en temps je fais comme ça.
Avec le doigt vous leur faites, viens voir toi. Mais là on va se dire les choses clairement, vous parlez de dealer.
Alors ça peut être eux, mais ça peut être d'autres gars que je vois tourner à déconner. J'y dis viens voir ta coco. Alors toujours le même discours, ce que tu fais là, tu commences à me gonfler. En fait tu m'emmerdes. Et mais par contre, toujours cette parole d'espérance, mais fais quelque chose, tu peux le faire. Ne passez pas parce que t'es à Bondy, c'est pas parce que t'es dans une cité, c'est pas parce que tu restes enfermé dans un truc. Allez, fais un pas en avant et on va t'aider à faire le deuxième, le troisième et le quatrième.
Mais moi, ce que je voudrais comprendre, Père Patrice Godin, c'est que vous vous dites que c'est l'uniforme du religieux qui fait que vous pouvez vous adresser directement comme ça aux jeunes. Mais l'uniforme, ça marche pas tout le temps, on voit bien avec la police. Donc, qu'est-ce qui fait que vous arrivez à avoir ce contact avec le jeune?
L'idée, c'est de dire, mais en fait, on se considère comme des amis. Et moi, je suis pas là pour faire la morale. Je suis pas là pour casser. Et je suis le témoin d'un Dieu qui est amour. Et en fait, ils se savent aimer. Combien de fois, il y a des types qui sont venus voir qui voulaient juste que je les serre dans mes bras, quoi. C'est vachement surprenant, quoi. Et ben parce que cet amour qui fait défaut dans plein d'endroits, parce que les parents bossent comme des dingues, ben le type, il est resté, ou la fille, elle est restée toute sa journée toute seule, elle se démerde. En fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime dans ce monde, quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime dans ce monde? Et combien de fois, des types qui trafiquent dans l'église, en fait, m'attrapent et me serrent dans leurs bras.
Attendez, qui trafiquent dans l'église?
Non, devant l'église, oui. Là, vous m'avez fait peur, là. Non, non, ils savent que quand
vous
ça
va... Vous êtes le gros bonnet de Bondy, en fait.
C'est ça, mais faut pas le dire. Hein.
En fait, il y a du trafic devant votre église. Ça vous pose pas problème, par exemple?
Alors, ça me pose problème, parce que alors, je mets des limites quand même. Mais en même temps, moi, je cherche toujours le climat de confiance, et c'est toujours le même discours. On va faire autre chose dans sa vie. Tu vas pas rester toute ta vie ici. Voilà, ça arrive, t'entends. Je me rappelle d'un petit gars qui est venu me dire, là, cette année, là, il m'a dit, Père Patrice, je vous ai écouté. Donc, demain, je file à Pôle emploi et je prends une formation. Je vous ai écouté. Donc, je le vois plus dans la cité. Donc, je me réjouis. Alors, je lui dis, tu sais, je vais prier pour toi, pour que voilà, tes projets avancent. Comme on dit chez nous, Inch'Allah, pour l'instant, ça avance.
Comme on dit chez nous, Inch'Allah.
Bah oui, on le dit à tout bout de champ, parce que c'est à la grâce de Dieu. Alors, c'est pas un vocabulaire, c'est un vocabulaire de tout. Ça, c'est simplement en arabe. Et j'aime bien l'arabe, c'est une très belle langue et j'essaye un peu de l'apprendre.
Steve, Tiencheu, quand vous entendez le père Patrice Godin, qui arrive à avoir comme ça une parole franche, directe avec les jeunes, ça vous inspire quoi?
En fait, ça me touche parce que le père Patrice, il a parlé d'amour. J'aime pas trop parler de ça parce que on dirait que je suis dur, mais nos parents nous ont pas trop montré. Ils nous ont montré l'amour, ils nous aiment, mais pas d'une manière qu'on avait l'habitude de voir, comme nous on a grandi en France. C'est pas de cette manière-là.
C'est
pas ce qu'on voyait à la télé.
Donc, pas l'amour de la télé, voilà. C'est pas le même.
Youth, ça veut dire quoi, c'est pas l'amour de la télé?
Très clairement, il y a des... Culturellement, dans nos sociétés, nos parents ne disent pas « je t'aime », par exemple. Moi,
c'est de la pudeur, c'est quoi?
Ouais, c'est de la pudeur, c'est de la fierté, c'est une construction culturelle qu'on peut pas définir, c'est comme ça, vous voyez. Et c'est vrai que moi, le summum de la marque d'affection de mon papa, c'était peut-être un sourire une fois de temps en temps. Waouh, c'est cool, je suis bien là, voilà, on est au max. Et c'est vrai que, pour rejoindre ce que dit Steve... L'amour et l'amour bordel, ouais, c'est ça. En fait, ici, dans les quartiers, ce qui nous manque, c'est ça, en fait. C'est les gestes d'affection. Voilà, je suis assez optimiste de nature. Et franchement, cette génération-là, moi, je suis un peu plus vieux, la génération qui arrive, c'est une génération qui dit « je t'aime ». C'est-à-dire que moi, maintenant, j'ai des potes, et bah voilà, Steve en fait partie, à qui on n'a pas peur et pas de tabou de dire « mon frère, je t'aime ». Vous voyez, ça, c'est des choses qui se disaient pas il y a encore 10-15 ans. Et aujourd'hui, c'est la note positive, c'est qu'on commence à s'aimer.
À le dire.
Ouais, à le dire, à l'exprimer. Et d'ailleurs, voilà, si on est là aujourd'hui, c'est parce que voilà, la parole, elle se libère et qu'on peut commencer à parler de ça.
En fait, c'est que ici, on a besoin de parler. On a besoin de vider nos sacs parce qu'on a un grand nettoyage à faire mentalement. dans nos banlieues. On a besoin de parler. Et comme je disais tout à l'heure à Pauline, c'est un peu tabou aller voir un psychiatre ou un psychologue parce qu'on se dit ouais, on est fou, tout ça, donc c'est chaud. Mais je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Et moi, le premier, hein, je me mets dedans. Hein.
Oui, sur cette question de l'amour, effectivement, il y a deux choses. On a du mal à se le dire. Moi, combien de fois dans la prédication, j'ai dit, ben, écoutez, vous savez, aujourd'hui, chers parents, vous allez prendre vos enfants dans vos bras. 5 secondes. Ça va vous faire du bien. C'est de l'eau bouillante là, qui est mise dans les mains, dans le cœur, etc. C'est ébouillanter les gens. Mais ça fait du bien à tout le monde. Parce qu'on a un cœur qui est fait pour aimer. Et au fond, il n'est pas libéré. Et puis, comme voilà, on a une très faible estime de soi.
Et sur, en banlieue ?
En banlieue, mais je pense que ça, c'est assez général. C'est assez général et je pense que c'est un grand drame, en fait, en Occident, c'est qu'on a une très, très faible estime de soi. On se prend toujours pour un pauvre con, on se reproche tout un tas de trucs. Nos vies, elles sont ce qu'elles sont. Ça peut arriver qu'on ait des histoires qui sont complètement gabossées, mais cette juste estime de soi, et c'est ça l'espérance, c'est moi que j'essaye de donner aux jeunes, mais aime-toi tel que tu es, te rêve pas acteur, Mbappé, machin truc, parce que ça va pas marcher, tu vas te donner de déception en déception. Aime-toi tel que tu es. Et t'es un mec bien, t'es une nana bien. Moi, il y a une parole de la Bible que j'aime beaucoup, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » Et s'il n'y a pas le toi-même, on va jamais réussir à aimer le prochain. Puis si on n'aime pas le prochain, on n'aime pas Dieu. Enfin, tout est lié, mais celle-ci, elle est essentielle. Cette estime de soi, cette confiance en soi qui est très faible. Hein. Très, très, trop faible, bien sûr, trop faible.
Père Patrice Gaudin, Pépé, donc, est-ce que vous écoutez le rappeur Youssoupha ?
Alors, j'écoute peu de rap. Alors, moi, je suis un fan de métal, en fait.
Un prêtre qui aime le métal.
Ouais. Je suis fan de Metallica, que j'écoute assez souvent. J'espère qu'ils vont passer un de ces quatre en France pour que je puisse aller les voir. Je les ai ratés.
Vous êtes vraiment un prêtre étonnant, vous, hein ?
Je sais pas, enfin j'essaye d'être moi-même quoi.
Bon, en tout cas, on va écouter le titre de Youssoupha, son titre Astronaute. Peut-être que le prochain Thomas Pesquet viendra des 3000, ce serait formidable ça.
C'est espéré, il faut jamais douter de soi. Faut jamais douter de soi. C'est pas parce qu'on est en cité, qu'on est black, qu'on est rebeu, que je sais pas quoi. Enfin, on peut toujours faire quelque chose. Et moi, je rajoute, t'as la foi en plus. Donc, vas-y, enfin, fais des projets et tu seras jamais seul parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va te donner un coup de main, en fait. Et donc, ça, c'est tout à fait possible. Et moi, j'y crois.
Loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil. Loin du soleil, je rêve d'être astronaute.
Alléluia, pas d'auréole mais couronne sur ma tête. Je m'en suis sorti parce que je me débrouillard. Je crois en Dieu et je crois en moi-même. Depuis le début, rien qui nous méprise. Négro, bien sûr que je préfère les miens. Je te déteste comme tous les gens qui me disent. J'aime pas le rap, mais bon, toi, je t'aime bien. On a fait le ménage et le sale boulot. Jamais écrit, on n'a jamais ragé. Parfois, faut accepter d'être sous l'eau. Être sous l'eau, c'est apprendre à nager. À chaque défaite, ils diront c'est ma faute. À chaque victoire, ils diront que je cruche. J'ai toujours refusé de juger les autres parce que je refuse que les autres me jugent. J'ai tellement rappé, désormais je conne. Je veux le terrain, pas assis sur le banc. Les refrains disent souvent c'est Dieu qui donne. Ils oublient que c'est aussi Dieu qui reprend. Je rappe toujours avec canon sur la tempe. Et le combat continue. Demande au public s'il est prêt à jump. Neptune et le Terminus, ils peuvent nous mépriser mais pas nous maîtriser. Ils veulent dramatiser, je vais grave traumatiser. J'ai crisé, j'ai teasé, la bouteille j'ai brisé. L'évolution sera pas télévisée, elle sera téléguidée, respecte ma répute. Rêve de l'espace, mets la terre à tes pieds. En combi d'astronaute à l'arrêt de bus, je confonds la NASA à la RATP. Pendant que la police d'ici se prend pour Robocop, fils d'immigré aura toujours la dalle. En amour c'est dur de rester au top, dur comme t'as fait les abdos à la salle. Je suis le daron de la matrice, fume cigare sans cannabis. L'Occident paiera ses dettes, sinon son futur c'est dead. Ra, presque en solo, j'ai même pas de grosse équipe. Ne parle pas trop ta morale, ton éthique. Cherche avocat pour prochaine polémique. Que la vodka vienne me rendre poétique. J'ai connu épreuve et guerre. L'amour, les océans de larmes. Je suis pas là pour un buzz éclair, mais pour l'infini et au-delà. Prims.
Loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil, je rêve d'être astronaute.
sommes à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, à la Cité des 3000. On est toujours avec la psychologue Pauline Tessé, le comédien Steve Tencheux, son complice Tariq Lakhdiri et le curé de Bondy, Patrice Gaudin, alias Pépé. Dans quelques minutes, il sera midi, c'est donc l'heure de l'apéro. On va déguster quelques délices. Alors c'est quoi ça, Youss? C'est des M-semaine? C'est comme ouais. Des galettes, des crêpes?
Voilà, donc c'est M-semaine en fait. Voilà, donc c'est une galette à la base dédiée au petit-déj et au goûter. Et qui a été, comme beaucoup de produits importés de l'immigration, qui a été détourné.
Ça vient du Maghreb.
Ça, c'est maghrébin à la base. Et la version française fait qu'aujourd'hui, il y en a du sucré, du salé, qu'on peut manger à midi, que c'est fourré. Ouais.
Là, c'est la vache qui rit, voilà. D'un côté. De l'autre, il y a avec du miel.
Voilà, c'est plus traditionnel avec du miel, mais avec la vache qui rit, c'est carrément Île-de-France, quoi.
Ouais. Mais c'est que les habitants d'origine maghrébine qui cuisinent ça?
Non, bah c'est ça qui est magique, c'est que c'est beau le mélange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les mamans des quartiers s'intéressent à ce type de produit et une maman malienne ou camerounaise du quartier fait ça, j'en suis sûr, dans sa cuisine. Ma mère fait du tieb, par exemple, malien. Et voilà, à la base, c'est pas quelque chose qu'on connaît.
Le tieb, c'est du riz avec du poisson qui cuit dans le riz avec ouais, la sauce tomate.
Poisson ou poulet, nous c'est plus poulet, mais voilà, ouais. Donc les mamans savent. Mélanger les saveurs, voilà, on se rencontre au marché, les mamans se rencontrent au marché, donc vous l'avez vu. Hein, c'est...
Et elles discutent, elles échangent des recettes.
Ouais, complètement. Bah, c'est magique, il y a toutes les nationalités représentées.
Alors Youss, on vient d'écouter Youssoupha, mais en banlieue, il n'y a pas que du rap, hein, il y a aussi de la chanson française, et c'est pas vous qui allez me contredire. Vous avez accepté de nous chanter un extrait de Petit Isaac, une chanson que vous avez écrite avec un message très fort. Vous avez accepté de nous interpréter un extrait. On vous écoute.
Il n'avait pas 7 ans, petit Isaac, lorsque pour la première fois, il fut confronté à la bêtise des grands sans en mesurer le poids. L'auteur de cet exploit n'était autre que le voisin. Y en a marre, rentrez chez vous, c'est à cause de gens comme vous que le quartier est malsain. Il comprenait pas bien, petit Isaac, pourquoi ce monsieur Bazin l'appelait le macaque, le bougnoulou, l'africain. Alors oui, il avait bien vu que sa peau d'un autre temps chantait plus que ses cheveux d'un autre temps. Ha ha, dansait plus, oui mais voilà.
C'était magnifique, Youss.
Merci, merci.
Votre chanson, Youss, parle de deux mondes qui ne se connaissent pas. Ça prend tout son sens ici à Aulnay-sous-Bois, car la ville, il faut bien le comprendre, on peut dire qu'elle est coupée en deux. Au sud, on a les pavillons et sa population plutôt aisée. Et au nord, où nous sommes, on a les cités populaires. Il existe comme une frontière invisible.
Complètement. Je me permets de faire juste un petit retour sur la chanson. En fait, elle, c'est une chanson qui est assez autobiographique et qui parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, qui parle d'un temps quand j'étais gamin où... Malheureusement, ce n'est plus le cas, où il y avait encore un vrai mélange. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec des gens français de souche, avec des gens d'origine italienne, portugaise, et du coup...
Il y avait une vraie mixité.
Il y avait une vraie mixité, et surtout, il n'y avait pas ces frontières qui sont très nouvelles, dont on va parler maintenant, qui sont des frontières qui ne sont pas basées sur sur la richesse. C'est-à-dire que, voilà, effectivement, c'est normal qu'il y ait des quartiers riches et des quartiers pauvres. Malheureusement, aujourd'hui, il y a autre chose de plus grave, c'est que il y a des différences ethniques, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui sont ethnicisés, si on peut dire ça comme ça, et malheureusement qui se vident surtout d'une partie de la population. Pour être très vulgaire, il n'y a plus de blancs, en fait. Malheureusement, il n'y a plus de blancs dans nos quartiers.
Ici, dans les 3000, il n'y a plus de blancs.
Bah, je vais pas généraliser, mais très peu. Voilà, très peu. En tout cas, ça représente une partie infime, malheureusement, de la population qui vit ici.
Parce que c'est la population blanche qui est partie.
Oui, bien sûr, la population blanche est partie. Après, je veux dire, c'est un peu logique. Je pense pas qu'elle est partie par désir de quitter les Renois et les Rebeux, hein, c'est pas le cas. Je pense qu'elle est partie parce qu'elle voulait vivre autrement et autre chose. On vit pas forcément super bien ici, il faut le dire. C'est-à-dire que ce sont des quartiers avant tout qui sont difficiles, pas parce que il y a de la violence ou du trafic. C'est des quartiers qui sont difficiles parce qu'on vit la pauvreté. Il y a la pauvreté, il y a des problèmes d'emploi malheureusement. Il y a des problèmes comme le disait Pépé tout à l'heure, il y a des problèmes surtout de pauvreté intellectuelle. Donc les gens, dès qu'ils le peuvent, ils partent. Et effectivement, on vit, sur Aulnay-sous-Bois, comme dans beaucoup d'autres villes, une espèce de scission, voilà, entre les quartiers, on va dire, populaires, et puis les quartiers un tout petit peu plus bourgeois, qui ne le sont pas, mais qui sont un peu plus... voilà. Et là, effectivement, il y a une scission ethnique qui se fait. Et c'est contre ça qu'on essaie de se battre, bien sûr.
C'est une vraie difficulté pour vous d'attirer la population d'Aulnay-Sud dans votre centre culturel ?
Oui, c'est plus qu'une difficulté, c'est un challenge. C'est-à-dire que moi, ça fait maintenant 5 ans que je suis dans ce quartier. Alors moi, je suis né à côté, hein, je suis né à Sevran, donc on vit exactement les mêmes choses. On a des mêmes problèmes, on a des amis en commun, on a la même vie, on va dire. Mais depuis que je suis ici, effectivement, le gros challenge que je me suis fixé, c'est celui-ci, c'est de réussir à faire en sorte que la frontière s'estompe. Je ne vais pas dire qu'elle s'efface, parce que ça, on ne pourra pas y arriver, mais en tout cas qu'elle s'estompe.
Oui, mais comme vous êtes très malin, vous avez réussi un jour à les faire venir.
Oui.
Racontez-nous.
Alors, comme vous l'avez dit, je suis artiste, chanteur et j'ai une autre vie. Et dans cette autre vie, j'ai eu la chance de côtoyer notamment Michel Drucker. Et on lui a demandé, il avait un spectacle très intéressant.
Un one-man show,
voilà, où il présente un petit peu sa vie sous forme d'anecdote. Et donc, je l'ai contacté pour lui demander de s'il voulait bien venir se produire chez nous, ce qui n'était pas forcément au début très académique. C'est-à-dire, pour être très honnête avec vous, on s'est un peu foutu de ma gueule. On m'a dit non, mais t'es sérieux, tu vas faire venir Michel Drucker aux trois queues, mais c'est pas pourquoi faire quoi.
Aux 3000, ouais.
Et donc, on a tenté le challenge. Et on va prendre 2 secondes parce que l'anecdote est marrante. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout de. C'est Michel Drucker quand même. Donc, on a ouvert les billetteries. Les gens des 3000 du quartier, les habitués du Nouveau Cap, ils venaient pas, ils achetaient pas leurs billets. Je me disais, mais merde, pourquoi parce qu'ils s'en foutaient en fait de Michel Drucker. Et malheureusement, les gens du Sud ne venaient pas non plus parce que c'était ici. Ils ne voulaient pas venir à Aulnay. Donc on a
Aulnay été... Nord.
Enfin, oui, pardon, lapsus. On a été obligé de faire un travail de fou, c'est-à-dire qu'on a mis en place des navettes. On a été obligé d'aller démarcher carrément les associations du Sud, pratiquement en leur cirant les pompes, en les suppliant de venir. On a réussi. Et pour terminer, j'ai une anecdote incroyable. C'est qu'à la fin du spectacle, il y a un petit couple adorable d'ailleurs qui était à l'entrée, qui attendait le retour de la navette. Et la mamie, je voyais bien qu'ils étaient hyper curieux. C'était devant l'esplanade. Ils étaient en train de regarder à droite, à gauche comme ça. Et je m'approche d'eux. Alors voilà, ça s'est bien passé. Et le papy me dit, mais c'était extraordinaire, mais on savait pas que c'était comme ça ici. Et le mec me dit, excusez-moi, je peux vous poser une question? Je lui dis oui. Il me dit, est-ce que vous pouvez m'accompagner sur l'esplanade? J'ai envie de voir comment ça se passe ici. Et franchement,
il voulait que vous l'escortiez.
Oui, j'étais ému aux larmes, quoi. Franchement, je vais pas vous mentir. Donc, je lui ai ouvert la porte. Je lui ai dit non, mais allez-y tout seul. Je suis là, vous inquiétez pas. Allez-y. Et la magie est opérée. C'est-à-dire qu'il y avait des gamins qui étaient au bout et qui se sont approchés d'eux. Bah bonjour. Alors, ça vous avez kiffé? C'était bien. Mais faut revenir. Enfin, voyez. Bon, voilà. Vous connaissez la convivialité légendaire qu'ont les gens dans les quartiers. Et voilà. Je pense qu'on en a. On en a convaincu deux. La preuve, c'est qu'ils sont revenus. Ils sont revenus déjeuner. On a un lieu où on fait aussi restauration. Et ils sont revenus manger. Ils sont venus à des expos. Le message passe tout doucement. Mais c'est vrai que c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours.
Pépé, vous avez le même problème à Bondy Nord? Est-ce que Bondy est coupé en deux aussi?
Oui, Bondy est coupé. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de quartiers, beaucoup de villes qui sont coupées. Nous, on a la N3 et le canal de l'Ourcq qui sont un peu une frontière infranchissable entre le Nord et le Sud. Cette question-là, elle est très profonde, me semble-t-il. C'est même un drame français. En fait, on a de la France qui est complètement explosée entre les beaux quartiers, entre guillemets, bobos, les cités, la France rurale, des campagnes. Et le drame, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance. Et l'ignorance, ça amène le mépris. Mais quand on se connaît, c'est-à-dire, soit, alors moi je fais l'expérience parce que je fais venir, il y a beaucoup d'entre guillemets de blancs qui viennent me voir, mes anciens paroissiens de Bordeaux, des connaissances. Je dis, si vous voulez me voir, c'est pas compliqué, vous tapez Église du Christ ressuscité sur GPS et la bagnole va vous y amener. Vous inquiétez pas, la bagnole, elle va pas cramer, vous serez pas à poil dans 5 minutes, et tout va très bien se passer. Et en fait, c'est la bonne expérience, mais c'est formidable, donc les gens reviennent. Puis en plus, ils pensent que les églises sont vides, etc. Donc ils tombent sur une église qui est pleine à craquer, c'est hyper joyeux, on se vite invité, on se vite des amis. Voilà, on brise l'ignorance et c'est formidable.
Yous, vous êtes le directeur donc du CAP, le centre culturel, et c'est un endroit très important ici dans le quartier. C'est un des derniers symboles du service public de la République.
Comme dans beaucoup de quartiers, malheureusement, les services publics habituels ont disparu, ou en tout cas ne sont pas taillés, malheureusement, à la population habitant dans ces quartiers. Donc souvent, voilà, ça se résume à quoi ? Un bureau de poste. Et bon, là, on en a un qui a été fermé très longtemps, mais voilà, on a un bureau de poste. Et le lieu le plus symbolique de ce qu'est notre beau pays, bah oui, aujourd'hui, au 3000, je suis très fier de le dire, c'est le nouveau CAP. Alors, il y a d'autres, évidemment, j'exagère volontairement, il y a d'autres, bien sûr, représentations de l'État, hein, il y a des maisons de quartier, il y a des choses comme ça qui existent, on va pas non plus noircir le tableau. Mais c'est vrai que le nouveau CAP, moi, en tant que Sevranais, je peux en parler peut-être encore mieux que les gens qui habitent ici, parce que...
Habitants de Sevran.
Voilà, parce que nous, on est voisins, et encore plus pauvres que Colnay. Et le CAP, pour nous, c'est vraiment... Il porte bien son nom. C'est vraiment le lieu où, moi, depuis que je suis gamin, les concerts, c'est ici que je venais les voir. Donc, le CAP a un vrai rôle, entre guillemets, culturel, mais... Au-delà de ça, et ça je l'ai découvert seulement depuis que je suis arrivé, le CAP est un lieu de rendez-vous. C'est un peu le café du coin. Alors après, on vient aussi faire des photocopies, on vient demander un peu d'aide sur la rédaction d'une lettre, d'un CV, et on a un rôle social extraordinaire. Ouais, vraiment, vraiment.
Steve, vous êtes la preuve qu'on peut briser ces clivages, ces frontières.
Je vais rester modeste, ça je sais pas, je vais laisser les gens le dire que je suis la preuve. Après, de toute façon, on va faire tout et tout... pour ouvrir maintenant avec la pépinière et avec l'aide de notre mairie, parce qu'il faut pas l'oublier, notre mairie elle travaille beaucoup, elle travaille bien, et c'est même pas, je dis même pas ça pour gagner des points et tout, mais je vois le changement, et voilà, Aulnay ça recommence à bien vivre quoi.
Merci à tous, merci à Hassan, le patron du café Le Grand Paris. Cette émission a été réalisée par Camille Blanès, Irène Menahem m'a aidé à la préparer. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Demain, Aurélie Sfez sera très loin d'ici, à 4277 km. Elle a traversé l'océan Atlantique, vous la retrouverez à Miquelon.